Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs, c'est Cyrus et je suis en compagnie de BenoFX pour la chronique jeu du mois. Bonjour BenoFX.
Salut Cyrus, salut à toutes et à tous.
Alors ce mois-ci, qu'est-ce qu'on va présenter?
Bah pour ma part, ce sera Not Alone.
Not Alone de Geek Attitude Game, c'est ça?
C'est ça.
Ok, et moi de mon côté, je vais vous parler de Magic Maze. Donc un jeu édité par Sit Down. Bon, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Je démarre avec Magic Maze.
Je t'en prie.
Alors Magic Maze, c'est un jeu pour 1 à 8 joueurs, édité chez Sit Down, à partir de 8 ans. Et pour des parties données d'environ 15 minutes. C'est un jeu qui est qui a été designé par Casper Lapp. Donc c'est son premier jeu, si je dis pas de bêtises, et qui a été illustré par Guillaume, qui est aussi un illustrateur que je rencontre pour la première fois personnellement. Je sais pas ce qu'il en est pour toi.
Ça me disait rien non plus.
De quoi il s'agit? Magic Maze, c'est un jeu d'ambiance coopératif et simultané et en temps réel. Alors là, tout de suite, ça paraît un petit peu abscon comme ça. En fait, le principe du jeu, c'est qu'on va avoir, en fait, il va y avoir quatre personnages qui sont thématiquement des personnages de donjons. Donc on a un barbare, une magicienne, un archer et un nain, si je dis pas de bêtises. Bon, effectivement, la thématique elle va vite s'éloigner du jeu, hein, donc c'est pour ça que je me rappelle pas spécialement des types de personnages. En fait, et donc ces quatre personnages là, on va les balancer dans un centre commercial. Et il va falloir qu'ils dévalisent le centre commercial, en fait qu'ils aillent voler un objet. Donc il va falloir les emmener chacun respectivement en un point précis. Et une fois qu'ils auront atteint ce point précis tous ensemble, il va falloir les faire sortir du centre commercial. Une fois qu'on aura passé les premiers scénarios, en fait il va falloir les faire sortir par une sortie qui leur est spécifique également. Tout ça, ça va jouer en temps réel, c'est-à-dire que chaque joueur va pouvoir bouger les personnages en même temps que les autres. Et donc il y a un sablier qui va matérialiser le fait que les personnages peuvent se faire attraper par les vigiles, puisqu'évidemment ils sont en train de dévaliser le centre commercial.
Et oui, tous les personnages peuvent être joués par tous les joueurs.
C'est ça, tout le monde va pouvoir bouger tous les joueurs, tous les personnages, pardon. La particularité, c'est que chaque joueur va avoir une partie des actions possibles du jeu. C'est-à-dire que les actions possibles, ça va être déplacer un personnage vers le nord, le déplacer vers l'ouest, l'est, le sud, emprunter les escalators, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, se déplacer via des vortex, donc une sorte de téléportation, en gros, ça permet de déplacer un personnage sur un endroit à sa couleur. Et la dernière action possible est...
Explorer les tuiles.
Ouais. C'est ça, exactement. Explorer les tuiles, parce qu'en fait, on va démarrer avec une tuile sur laquelle on va mettre tous les personnages. Il va falloir explorer les tuiles alentour pour, dans un premier temps, trouver les boutiques que les personnages vont dévaliser et ensuite trouver les sorties et se précipiter vers celles-ci. Voilà un petit peu pour l'explication rapide du jeu.
Déjà, la thématique est assez what the fuck, hein. Des personnages d'Heroic Fantasy qui se retrouvent dans un centre commercial, tout ce qu'il y a de plus moderne. C'est assez
Oui, ouais, c'est vrai. Et ça, c'est vrai que ça attire tout de suite un peu le challenge, je trouve. Enfin, on se demande pourquoi ils ont été chargés de cet univers-là. Enfin, moi, je sais que quand j'avais entendu le thème, je lui ai dit tout de suite, tiens, c'est quoi cette
Qu'est-ce
histoire?
Qu'est-ce que c'est que ce truc?
C'est ça, ouais. Après, bon, voilà, le thème, il s'éloigne assez vite, mais ça marche quand même. Voilà, c'est pas transcendantal, mais ça fonctionne. C'est plutôt rigolo et c'est dans l'esprit du jeu, en fait.
Oui, puis c'est assez coloré, c'est dans un univers assez coloré, assez.
Ouais, enfin, coloré. Disons que le matériel, quand t'installes les tuiles, tout ça, c'est quand même. Enfin, moi, je trouve que ça fait plutôt un peu labo, quoi. Ça fait vraiment centre commercial moderne, beaucoup de blanc, il y a quelques touches de couleur. Mais je pense que l'idée, c'était surtout que les choses soient suffisamment visibles. Pour les joueurs, parce que c'est quand même pas évident quand on joue avec la précipitation, la vitesse de jeu, bah oui, la précipitation en fait, quoi, parce qu'il faut faire les choses vite. Donc régulièrement on recherche certaines zones, typiquement les boutiques de chaque personnage. Il y a un moment où on recherche, mince, elles sont où? Il faut quand même qu'il y ait un minimum de lisibilité. Donc du coup, c'est plutôt fond blanc avec effectivement des touches de couleur pour représenter les personnages.
Ouais. Moi, je te parlais surtout de la boîte, en fait, du souvenir que j'ai de la boîte, c'est des personnages assez en couleur sur la boîte.
Oui, effectivement. Ouais, c'est des personnages un peu, je sais pas, un style un peu cartoonesque.
En tout cas, ça attire l'œil, ouais.
Ouais, bah, on a une boîte blanche. En fait, finalement, on retrouve un peu le design qu'on retrouve souvent chez Sit Down, enfin, en tout cas dans leur dernier jeu, dans Sushi Dice ou dans...
God Save the Queen.
Merci. Où voilà, on a fond blanc avec une illustration principale. Un peu comme avait pu faire Gozu à l'époque, mais là on avait que le titre, si je dis pas de bêtises. Maintenant, il y avait le titre et un personnage. Ça
Ouais.
rappelle un petit peu ce style-là.
Ouais, sauf que là on est sur une boîte un petit peu plus grosse que pour God Save the Queen
Et
et Gozu
Sushi
et
Dice,
Sushi Dice, ouais.
ouais. Oui, on est dans une boîte, je sais pas, d'une 20-25 cm de côté, peut-être à peu près 20-25 cm de côté. Que vous dire d'autre? Alors, il y a plusieurs scénarios dans le jeu. En fait, on va un petit peu appréhender les différentes règles et monter en difficulté sur les 7 premiers scénarios du jeu. Et à la fin du 7e scénario, enfin même à la fin du 6e en fait, on aura toutes les règles principales du jeu. Le premier scénario du coup va être assez simple, bon, sauf pour la première partie, hein, parce que moi j'ai joué avec différents groupes, et généralement la première partie quand même on la perd. Hein.
Ouais.
Même quand c'est simple. Alors du coup, pour quelqu'un qui fait plusieurs fois la première partie, c'est assez frustrant quand même de voir que les autres n'y arrivent pas, et c'est assez particulier. Hein. Ah oui, parce que pardon, j'ai quand même oublié un élément essentiel. C'est que une fois que le sablier est retourné,
Peut
il
pas
est
parler.
interdit de parler. Ouais, c'est
Ouais,
ça.
et c'est ça qui est très dur.
C'est quand même ça qui est très dur. C'est quand même un des points essentiels du jeu. La communication est interdite une fois qu'on a retourné le sablier et qu'on a lancé la partie. Donc au début, on peut se dire, bon, voilà, on va faire ci, on va faire ça. Sauf qu'au début, on a une seule tuile qui est installée. On connaît pas du tout les autres tuiles qui vont sortir. Et puis quand on lance une première partie, il est évident qu'on n'a pas forcément retenu toutes les règles. Et du coup, si on s'en tient stricto sensus aux règles du jeu justement, et qu'on s'interdit de parler et qu'on s'interdit de rappeler les règles au cours du sablier, ben forcément il risque d'y avoir des problèmes. Bon, alors évidemment sur les premières parties on peut s'autoriser des petites incartades, quoi, mais
Ouais, c'est très dur de pas parler et puis c'est ce qui fait tout le sel du jeu parce que tout le monde peut faire tout et éventuellement n'importe quoi, sauf qu'on peut pas rappeler à l'ordre une personne qui ferait n'importe quoi justement.
ouais, bah du coup quand ça arrive vraiment, enfin si une personne fait par exemple un mouvement qui lui est interdit normalement, par exemple elle se déplace à l'est alors qu'elle doit se déplacer vers le nord,
Oui, là tu le dis, ouais.
bon voilà, là tu vas le dire, sinon effectivement ça pète tout le jeu, quoi. Donc voilà. Alors du coup, ce qui va se passer, donc il y a un sablier qui dure 3 minutes. Donc pendant tout ce temps-là, on va pas avoir le droit de parler. Et au bout d'un moment, avant que ce sablier arrive à la fin, il va falloir aller sur une case qui représente le sablier pour pouvoir le retourner, ce sablier à nouveau, et bénéficier du temps qui s'est déjà écoulé en fait. Enfin, voilà, c'est un système de sablier simplement. Donc du coup, le sablier fait 3 minutes, si vous le retournez au bout de 2 minutes, ben, en fait le sablier, ce qui reste, c'est
2
2 minutes.
minutes. Et si je
Voilà.
retourne au bout d'une minute, en fait, t'as plus qu'une minute,
C'est
donc
ça, exactement. Tu t'es
t'es
fait
privé de temps, quoi.
une. C'est ça, exactement. Donc il faut bien gérer ça aussi. Bon, en général, ça se passe plutôt bien, hein. Quand on explique bien aux gens au début, il faut pas retourner le sablier non plus à tort et à travers. Surtout que de toute façon, on peut dans l'ensemble de la partie, on peut le retourner 4 fois. Donc ce qui fait qu'on a forcément des parties qui durent moins de 15 minutes,
Et forcément sur des zones
mathématiquement.
différentes, quoi.
Et forcément, voilà, on doit aller sur des zones différentes pour retourner le sablier. Donc là, c'est pareil, une fois qu'on a retourné deux, trois fois le sablier, on commence à chercher là où les deux pauvres zones qui restent avec le sablier, et des fois, on se rend compte que nos personnages sont un peu loin de ça. Voilà, que raconter d'autre?
Bah alors moi j'ai joué au scénario d'initiation et du coup j'ai du mal à voir en fait en quoi consistent les scénarios suivants. C'est juste des tuiles en plus ou alors est-ce qu'il y a vraiment une histoire de scénario quoi? Est-ce qu'il y a vraiment des choses en plus dans le...
Alors du coup, quand tu vas progresser dans les 6 premiers scénarios, comme j'expliquais, tu vas apprendre les différentes règles. Donc la première règle, le scénario 1, donc c'est très simple, il y a une seule sortie pour tout le monde. Donc voilà, tout le
Oui.
monde a la même sortie. Le scénario 2, on a les 4 sorties qui sont propres à chaque
Cinq
personnage.
personnages, ok.
Donc, et du coup, on rajoute forcément des tuiles.
Oui.
Le troisième scénario rajoute une des règles assez essentielles aussi au jeu, c'est que quand on retourne le sablier, donc alors bon, ce que j'ai pas expliqué, qui est peut-être, c'est pas complètement anecdotique, mais quand on retourne le sablier, on a le droit de parler à nouveau.
Tant qu'on n'a pas fait de mouvement.
C'est ça, tant qu'on n'a pas fait de mouvement, tant qu'on n'a pas rebougé un bonhomme. S'il y a un truc qui est rebougé, pouf, tout le monde doit se taire à nouveau. Et surtout, on va échanger nos tuiles, les tuiles qui représentent nos actions possibles.
Ah oui, ça on l'a pas fait nous, ok.
Voilà. Et là, tout de suite, ça complexifie aussi un peu le jeu parce que y a un petit temps d'adaptation. En fait, il y a un laps de temps pendant lequel,
Tu vas faire ton ancienne action en fait. T'auras tendance à faire ton ancienne
ouais,
action.
soit tu vas vouloir faire ton ancienne action, soit tu vas réfléchir longtemps, tu vas regarder bien ce que tu peux effectivement faire. Et puis, tu peux aussi avoir planifié des choses. Parce que voilà, ton action a été coupée dans son élan, tu peux avoir planifié des choses et puis du coup bah pas pouvoir les faire finalement.
D'accord.
Donc ça c'est le scénario 3. Dans le scénario 4, à partir du scénario 4, on va ajouter des éléments qui sont propres à chaque personnage.
D'accord.
Donc dans le scénario 4, on va rajouter des tuiles avec des passages
D'accord.
qui sont étroits, enfin étroits, qui sont plutôt bas de plafond. Du coup, il y a que le nain qui peut passer par ici.
D'accord.
Voilà, voilà, c'est plutôt thématique. Bon, personnellement, j'ai pas, enfin, on s'est pas trop senti gêné par ces éléments-là, par exemple. Par le fait qu'il y ait que le nain qui puisse passer par là. Finalement, on prend ça plus comme un raccourci pour le nain qu'autre chose.
Ouais, tu peux contourner avec les autres, quoi.
C'est ça, oui. Parce que oui, normalement, tu peux contourner avec les autres. Ce qui est ajouté également, c'est que lorsqu'on explore avec le personnage avec l'elfe, donc qui est l'archer, en fait, le personnage vert, au moment d'explorer, on peut à nouveau parler.
D'accord.
Donc après que les mêmes règles que pour le sablier, du coup, dès que quelqu'un bouge quelque chose, c'est
On se
fini, on
tait.
peut plus parler. Voilà. Le pouvoir de la magicienne, donc le personnage violet, c'est sur certaines tuiles, il y a un symbole en plus, un globe de cristal. Et si on déplace la magicienne dessus, on va pouvoir explorer 2 tuiles supplémentaires et les poser où
D'accord.
on veut. Et le dernier, alors ça rajoute plutôt des bonus finalement. Parce que comme je disais, le nain c'est plutôt un raccourci pour le nain. La possibilité de parler avec l'elfe. Alors pour le coup, moi sur les parties que j'ai fait, voilà, pas trop utilisé. On l'a utilisé un petit peu, mais pas beaucoup. La magicienne, c'est plutôt intéressant aussi. C'est plutôt un bonus parce qu'on va pouvoir retourner 2 tuiles et les mettre à peu près où on veut.
Ouais.
Donc ça va accélérer la recherche. Et le sixième scénario, en revanche, ça met vraiment des bâtons dans les roues. Ça ajoute les caméras de surveillance.
D'accord.
Dans le jeu complet, il y en a quatre. Il y a 4 tuiles avec des caméras de surveillance. Et à partir du moment où il y a au moins 2 caméras de surveillance sur le plateau, on ne peut plus aller chercher les sabliers pour le retourner.
Ah oui. Ouais,
Alors
super
évidemment,
restrictif.
voilà. Évidemment, on peut désactiver les caméras de surveillance.
Ah,
Voilà, et ça, c'est le rôle du barbare, donc le personnage
ok.
jaune.
Il vient péter les trucs.
C'est ça exactement. Voilà, plutôt thématique aussi.
Ouais.
Ça c'est plutôt pas mal parce que du coup ça rajoute vraiment des petits dilemmes dans la partie. Est-ce que parce qu'en fait il faut pas du coup il y a un moment faut pas explorer trop vite. Il faut aller péter les caméras avant d'explorer parce que sinon si t'es un peu short sur le sablier tu peux plus retourner le sablier. Du
Ouais,
coup
t'as
tu
pas le
veux
temps d'aller péter la caméra,
c'est
puis
ça
d'aller
ouais.
chercher le sablier, quoi.
Voilà, donc ça rajoute un petit peu des effets de priorité. Et du coup, le scénario 7, en fait, simplement ajoute. Le scénario 6, en fait, ne met que 2 tuiles avec les caméras. Et le
Ouais.
scénario 7 ajoute les 2 dernières qui manquent.
D'accord.
Et voilà. Une fois qu'on a fait les 7 premiers scénarios, on a vraiment toutes les règles. sachant qu'on pourrait, on peut très bien, voilà, avoir fait une ou deux parties d'initiation et attaquer directement le scénario 7. C'est complètement faisable, je pense, hein. Pour ma part, j'ai joué avec plusieurs groupes, mais les scénarios au-delà du 3, je les ai joués qu'à deux. J'ai pas eu l'occasion de les jouer à plus.
D'accord.
À deux, le jeu est plus, comment dire, un peu plus tactique, un peu plus, je pense que c'est un peu plus facile aussi.
C'est de l'optimisation un peu vraiment.
Ouais,
de,
oui,
de,
voilà,
de coup,
enfin,
quoi.
L'optimisation. Je sais pas trop comment dire. Je pense que c'est beaucoup plus facile en fait, surtout. C'est plus facile. C'est moins chaotique. C'est moins le bordel à la table. Parce que tout de suite, on a deux déplacements oui. possibles plus une des actions spéciales.
Ouais. Donc tu peux enchaîner en fait plusieurs mouvements.
Oui, c'est ça. Voilà. Ouais.
Une seule personne peut enchaîner plusieurs mouvements, là où à plus, faut vraiment se relayer.
Ouais, c'est exactement
de
ça.
De manière
ouais.
optimum, quoi.
J'ai pas eu l'occasion de jouer à plus que 4. En fait, à 4, en gros, les actions sont pas mal découpées. Et au-delà, il va y avoir des actions qui vont être redondantes.
Ouais.
C'est-à-dire, en fait, des déplacements, typiquement, qui vont être redondants.
Oui, si, bah, alors moi, j'ai joué une fois à 5 et une fois à 8. Alors vraiment la partie d'initiation, hein, j'ai essayé à Cannes et effectivement voilà, 5 ça passait encore, je crois qu'il y avait une action qui était en double. Par contre à 8, là t'as pratiquement toutes les actions, en tout cas t'as toutes les directions qui sont en double et là j'ai trouvé ça vraiment trop chaotique parce que déjà pour atteindre en fait les personnages à 8 autour de la table, c'est un peu une salade de mains qui essaye de choper les trucs, tu vois, c'est un peu compliqué. Et en plus ouais, c'est pour se mettre d'accord et se coordonner à 8, c'est juste trop chaud quoi.
Ouais.
Donc même le scénario d'initiation qui est pas très très dur, on s'est explosé.
Alors,
quoi.
J'en discutais un peu avec une personne de Sidam parce que j'ai posé quelques questions avant l'enregistrement de la chronique, qui me disait qu'effectivement au-delà de 4, les gens étaient les avis étaient un peu partagés et que il arrivait aussi que parfois il y ait des gens qui du coup s'arrêtent de jouer. À partir du moment où il y a un autre joueur qui a le même, la même capacité que soi en fait, en gros, parce que
et qu'il le fait bien, ouais.
Oui, c'est ça. Ouais.
Bon, moi, c'est à 8, j'étais un peu loin en fait de l'action et du coup, effectivement, j'avais juste un mouvement simple, j'avais pas d'action spéciale et du coup, effectivement, t'es pas super dedans quoi, parce que l'autre personne va faire le déplacement que tu dois faire et en plus t'as pas de mouvement spécial à faire, donc bah tu regardes un peu quoi, t'es un peu spectateur plus que joueur à 8 hein. À 5 c'était beaucoup moins le cas, mais à 8 c'est
bah,
chaud quoi.
Du coup ouais, j'ai pas essayé au-delà de 4, mais à mon avis la configuration à 4 doit être sûrement la configuration la plus optimale,
l'optimum ouais.
parce qu'il y a voilà ouais, parce que les rôles sont vraiment découpés. Et on a vraiment, je pense qu'on a régulièrement cet effet qui est l'effet rigolo du jeu, c'est on attend qu'un joueur joue. Et alors pareil, ce que j'ai pas expliqué, c'est que dans le jeu, il y a un pion, un gros pion rouge en fait, qu'on peut mettre devant un joueur. Et en fait, c'est le pion fait quelque chose.
Ah
il
oui,
s'appelle comme ça.
C'est le pion d'alerte, quoi.
C'est ça, c'est le pion fait quelque chose. Sauf qu'on peut pas dire quoi.
Réveille-toi, quoi. Réveille-toi, t'as un truc à faire, regarde
c'est ça.
Bien.
Sauf qu'on peut pas dire ce que c'est. Donc potentiellement, la personne elle a plusieurs actions possibles.
Ouais.
Et elle a les quatre pions sur la table.
Plusieurs personnages, ouais.
Voilà, et donc du coup, elle sait pas nécessairement sur quel pion agir et que faire sur ce pion. Évidemment, ça amène des scènes rigolotes, des scènes d'énervement, parfois aussi de gens, des scènes d'agacement, avec des explications, du coup, qui partent direct quand le sablier est retourné.
Mais moi, je comme c'est un jeu silencieux, j'aurais trouvé ça marrant que le pion d'alerte, là, ce soit une espèce de petite clochette, tu sais, et tu te mettes à agiter la clochette devant le mec, là, ding, 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 ding.
Ouais, c'est pas mal. En fait, ce que les gens font, c'est qu'ils tapent, en fait. En fait, ils le prennent
oui,
pas juste pour
le
poser.
Ouais.
Normalement, souvent, t'as tendance à tapoter plusieurs fois sur la table, tu tac, tac, tac.
En faisant les gros si yeux.
C'est ça. Ah oui, alors, t'as le droit aussi de faire ça. T'as le droit de fixer quelqu'un, intensément. Donc, si le pion est trop loin de toi, tu peux fixer quelqu'un intensément aussi. Ouais, c'est alors c'est un jeu particulier quand même hein, parce qu'effectivement on peut pas parler pendant la plupart du temps.
Mais pour le coup, tu peux pas parler, mais il y a quand même une espèce d'ambiance un peu folle autour de la table quoi. C'est ça qui est drôle.
Ouais, c'est ça. Et c'est vraiment, enfin, c'est vraiment original comme,
Ouais,
comme mode de
la
jeu.
mécanique, ouais. La mécanique est très originale. Ouais.
Alors, du coup, je me suis demandé où est-ce qu'ils avaient trouvé ce jeu-là, parce que d'un auteur inconnu, et voilà. Et en fait, il se trouve que l'auteur a contacté Sit Down et leur a proposé son jeu. Il a envoyé, sûrement, j'imagine, les règles, et puis il a envoyé une petite vidéo, avec son jeu. Et du coup, alors j'ai retrouvé la vidéo en question.
Ah ouais.
J'ai demandé à Sidon si c'était bien celle-là, parce qu'en fait, j'ai cherché via le nom de l'auteur. Je l'ai retrouvée, donc je la mettrai dans le billet. Et alors, vous allez voir, le jeu est complètement différent en fait. Il n'y a pas l'aspect modulaire. C'était il y a 2 ans, je crois, ou il y a 1 an. Bon, bref, c'est pas très grave. Du coup, le jeu était très différent. La personne de Sit Down, Laetitia, m'a expliqué que le jeu était beaucoup plus gamer et que en fait, Sit Down a demandé à ce que le jeu soit revu de façon à être plus familiale. Et apparemment, la copie qui a été livrée derrière était, si j'ai bien compris, assez proche de la copie finale.
D'accord. C'est
Et pardon?
un auteur qui est de quelle origine?
Il est danois.
Danois, ok.
Et alors je m'étais posé la question parce que si vous avez déjà écouté notre retour de Cannes, on en avait un petit peu parlé de Magic Maze.
Oui.
Et je me posais la question à ce moment-là s'ils avaient vraiment beaucoup cru au jeu parce que on a un tirage, enfin on a un matériel qui est quand même relativement abondant dans la boîte avec un prix plutôt contenu. Donc je m'étais dit que le tirage devait être quand même assez conséquent et avec un livret en 5 langues. Alors, en fait, ce que Sid Down m'a expliqué, c'est que, en gros, leur jeu, il les faisait toujours en 4 langues minimum. Ce que j'avais pas
D'accord.
pu vérifier, ils faisaient toujours français, anglais, allemand et néerlandais. Belgique oblige.
Et
Et
puis ils sont
puis,
belges.
voilà, c'est ça. Et du coup, là, ils ont ajouté l'espagnol. Je crois qu'il y a une version italienne aussi, mais donc distribuée à part. Enfin bon, bref. Et là, ils avaient fait un premier tirage à 11 000 exemplaires. Sachant que les jeux précédents, ils tiraient plutôt entre 3 et 5 000 le premier tirage. Donc effectivement, ils sentaient qu'il y aurait
Il
quelque
sentait qu'il y
chose
aurait un
derrière ce
succès.
jeu. Sauf que les 11 000 exemplaires, ils ont été
Très vite
dévalisés
vendu.
très rapidement. Voilà. Donc là, le jeu, typiquement chez notre sponsor, actuellement, il est indisponible. Mais il y a un tirage qui est déjà en cours, un retirage et même un troisième retirage qui enfin un troisième tirage du coup, pardon, qui est en cours. Et du coup, de ce qu'ils m'ont dit, là ils en sont déjà sur ces 3 tirages-là à 30 000 exemplaires.
D'accord.
Ce
Beau succès.
qui, ouais, voilà, c'est ça s'annonce plutôt comme un beau succès. Moi, j'ai vu pas mal de critiques plutôt positives sur le jeu de part et d'autre. Et pour comparer, Sushi Dice, qui était quand même un jeu beaucoup plus petit format, avait été tiré à 15 000 exemplaires sur le premier tirage, et ils en sont à 40 000 exemplaires, sachant qu'il est
Au
sorti
total.
il y a 2 ans, je crois, maintenant. Donc là, Magic Maze est en train de dépasser ces chiffres-là en un rien de temps, quoi, en 3 mois de temps, enfin même pas. Et c'est sorti en février, fin février.
Ouais, bah à Cannes, je crois, hein. C'est sorti à Cannes.
Oui, ça doit être ça, ouais.
Donc fin février, ouais, c'est ça.
Voilà. Et du coup, je leur ai dit, est-ce qu'il y a des extensions qui sont en cours? Et visiblement, l'auteur est en train de pencher dessus parce que tout le monde lui dit, mais les gardes, ils sont où? Ils sont
Ah
où les
oui.
gardes? Parce que il est censé y avoir des gardes qui attrapent. Et donc apparemment, il est en train de plancher là-dessus. Et les gardes devraient prendre forme dans le jeu dans une extension à venir. A priori, même très rapidement, parce qu'ils m'ont parlé d'Essen.
D'accord. Et les
Voilà.
gardes seraient, tu sais un peu comment ça fonctionnerait?
Non, non, du tout, du tout. J'ai
Ok.
pas, j'ai pas, j'ai pas creusé le sujet, mais voilà. Mais c'est plutôt intéressant. Alors dans le jeu, il y a d'autres scénarios hein, derrière ces 7 premiers scénarios. Il y a des scénarios qui sont des sortes de variantes en fait, où on va, par exemple, interdire la communication, même quand on retourne le sablier, où on peut carrément même plus utiliser le pion fait quelque chose. Il y a une variante qu'on a essayée, qu'ils appellent tromper les vigiles. Il va falloir aller dérober un objet dans une boutique qui n'est pas de sa couleur. Donc,
D'accord.
alors on s'est dit, ah, ça peut-être créer des trucs un peu bizarroïdes parce qu'effectivement, si t'as placé 3 bonhommes sur des couleurs différentes et qu'à la fin t'en as plus qu'un qui doit aller
De
sur
la
sa
bonne
couleur,
couleur,
c'est pas bon,
ouais,
tu
ça
vois.
marche pas.
Voilà, ouais. Et pareil pour les sorties, du coup. Bon, on a raté une première partie parce que moi j'avais oublié qu'on jouait avec cette variante. Donc voilà, c'est un peu con, mais je propose à ma femme, on joue avec cette variante. Bon. Oui, c'est un peu con. Voilà. Je pense que à plusieurs, ça peut créer des trucs vraiment vraiment bizarroïdes.
Ouais.
Voilà, il y a pas mal de petites variantes comme ça. Visiblement, ils planchent aussi sur d'autres variations. Ils pensent aussi faire un petit concours de scénarios. Voilà. Enfin, visiblement, il va y avoir vraiment une vie après le premier tirage de ce jeu. Il va vraiment y avoir un suivi derrière, quoi.
Ok. Et dans la boîte, il y a aussi une feuille d'achievement, non ? Enfin, avec des objectifs ou des scores que tu fais en fonction en fonction du scénario et du nombre de tuiles avec lesquelles t'as joué.
C'est ça, exactement. Ouais. Il y a t'as un feuillet en fait sur lequel tu peux marquer le nom des joueurs qui ont participé. Tu vas dire combien de sabliers t'as utilisé dans ta partie et combien de tuiles, parce qu'effectivement, les différents scénarios, tu peux les faire avec un nombre de tuiles variable, donc de je sais plus, c'est de 17 à 24, quoi. Il y a 24 tuiles dans la boîte, il me semble.
Donc plus t'en mets, plus c'est difficile en fait.
Oui, parce que du coup potentiellement plus il faut que t'explores, parce qu'il faut trouver les 4 boutiques et il faut trouver les 4 sorties.
Ouais.
Et ça aussi, des fois, quand tu joues avec beaucoup de tuiles, tu peux avoir des gens qui continuent à explorer, alors qu'en fait, il faut plus, si t'as trouvé les 4 boutiques et les 4 sorties, en fait, grosso modo, normalement, il y a plus besoin d'aller trop loin, quoi. Mm. Alors, c'est rigolo aussi, parce que il y a plein de choses à gérer, en fait, dans le jeu, et dans un temps très court, parce que, ça arrive, enfin, on a fait une partie hier avec ma femme, et j'ai arrêté. Elle partait dans un sens pour explorer, mais en fait du coup on faisait un couloir, quoi. Et au bout d'un moment t'arrives au bord
pour
de
revenir,
la table.
C'est chaud, quoi.
Ah oui, puis t'arrives au bord de la table et t'es obligé de déplacer les tuiles. Alors, dans le temps en partie, c'est de déplacer les tuiles. Enfin, c'est complètement abscon, quoi. Voilà, donc ouais, il y a plein de trucs à gérer en fait dans un temps très court et c'est rigolo. Après, c'est pas un jeu à mettre dans toutes les mains, il faut quand même en avoir conscience, parce que c'est du temps réel, il faut bien avoir retenu toutes les règles. Il y a Jérémy en fait qui avait joué avec sa fille et son fils, et sa fille elle a je crois 9 10 ans, quelque chose comme ça, et arrive à certains scénarios, grosso modo ça devenait un peu trop compliqué pour elle, quoi, alors que c'est quand même affiché 8 ans sur la boîte et que il est plutôt d'une famille de joueuses quand même. Mais bon, franchement, si vous avez l'occasion, essayez, c'est plutôt plutôt rigolo.
Ouais, et très original en tout cas.
Et vraiment original, ouais. Là pour le coup, moi je connais rien de complètement semblable en tout cas. Hein. Mmh.
Non, c'est clair. Tu rappelles la fiche signalétique, à moins que tu veux lui dire quelque chose encore.
J'ai à peu près dit tout ce que j'avais à raconter sur ce jeu. Donc je rappelle effectivement la fiche signalétique, donc Magic Maze. C'est un jeu édité par Sit Down pour 1 à 8 joueurs. Pareil, j'ai pas essayé la variante à 1 joueur. Enfin, la variante à 1 joueur. La variante solo, quoi.
Apparemment, tu as toutes les actions qui sont sous forme de piles, et tu dois dépiler jusqu'à avoir l'action que tu veux faire, et puis après, si tu veux faire une autre action, tu dois continuer à dépiler, ou alors rempiler les tuiles, et puis c'est toujours la tuile que t'as devant toi, en gros, qui fait foi, et tu peux faire plusieurs fois la même action de cette tuile, et puis tu dois changer tout le temps de tuile.
C'est ça. Du coup, ça devient un double jeu de rapidité, quoi.
Faut
être rapide dans le dépilage, l'empilage de tuiles, et dans le déplacement des personnages, quoi.
Ouais.
Bon, voilà, je pense qu'on perd vraiment l'essence du jeu, hein. C'est...
Oui.
Bon.
C'est histoire de dire que c'est un 8 joueurs, quoi. C'est
que
c'est
tu
bien
peux jouer à 1, c'est ça, ouais. Exactement. Donc 1 à 8 joueurs à partir de 8 ans, des parties de 15 minutes mathématiquement maximum. Alors, en général, on enchaîne plusieurs parties. Hein. Et c'est au prix de 22,50€ chez Philibert, et c'est un jeu de Casper Lab.
Très bien, on passe à Nautolone.
Eh ben, passons à Nautolone.
Ça marche. Alors, Not Alone, c'est un jeu de Guylain Masson, édité par Geek Attitude Game, gag pour les intimes. C'est très joliment illustré par Sébastien Quévaux. C'est sorti en octobre dernier. Alors, c'est un jeu un petit peu vieux, on va dire, pour vous le présenter dans les jeux du mois. Mais il y a plusieurs raisons à cette présentation. Déjà, je ne m'étais pas procuré le jeu sur son premier tirage, donc d'octobre, qui est très vite parti parce qu'il a pas mal buzzé à SN.
Et du coup, il a fallu que t'attendes le mois de mars.
J'ai fallu que j'attende le mois de... Bah, j'ai pu l'acheter à Cannes, ils avaient quelques boîtes à Cannes.
Ouais.
Mais oui, le deuxième tirage est arrivé fin février, début mars. Donc je l'ai eu il y a pas si longtemps. Puis j'avais aussi écouté vos retours d'Essen, puisque moi j'ai pas eu la chance d'aller à Essen. J'étais pas d'accord avec tout ce que vous avez dit dans vos retours d'Essen, donc j'avais envie aussi un peu de donner mon avis sur ce jeu. Et la dernière raison, c'est que j'ai eu l'occasion dernièrement, donc il y a 2 semaines maintenant, de tester une des deux extensions qui vont paraître courant de l'année normalement. Et puis j'ai eu aussi l'explication de l'autre, donc ça permettait à la fois de parler de ces futures extensions pour Not Alone. Donc, Not Alone, c'est quoi ? Alors, Not Alone, c'est un jeu asymétrique, donc dans lequel il y a une personne qui va jouer une créature qui est sur une planète, d'accord, une planète perdue dans l'espace, et les autres joueurs, donc qui peuvent être entre 1 et 6, vont jouer les survivants, justement, qui sont écrasés sur cette planète et qui vont essayer d'en partir avant que la créature les assimile. Donc, c'est un jeu de 2 pour 2 à 7 joueurs. Donc il y a toujours au moins une créature, et puis après, comme je l'ai dit, 1 à 6 joueurs. C'est à partir de 10 ans, et c'est pour des durées entre 30 et 45 minutes annoncées, ce qui est à peu près le cas généralement. Donc comment ça va se passer ? Sur cette planète, sur laquelle les survivants sont écrasés, il y a des lieux qui sont représentés par des cartes. Donc il y a 10 lieux au total sur la planète que les explorateurs, enfin que les survivants vont pouvoir explorer, sachant qu'au départ ils n'ont accès qu'à 5 de ces lieux. Pour accéder aux 5 lieux suivants, il va falloir explorer la planète et éventuellement les découvrir. À chaque tour de jeu, en fait, les joueurs vont jouer un lieu sur lequel ils souhaitent aller, face cachée. Et pendant ce temps-là, la créature, une fois que les lieux sont joués, va pouvoir choisir de, on va dire, les attendre sur un des 5 lieux, enfin des 5 ou 10 lieux. Donc il y a un petit jeton créature pour matérialiser la présence de la créature. Et donc une fois que tout le monde a choisi son lieu, la créature va les lieux sont numérotés, hein, de 1 à 10. Par exemple, la créature choisit d'aller sur le lieu numéro 2 pour attendre les rescapés. Et donc après, à partir de ce moment-là, tout le monde révèle la carte qu'il avait jouée avant que la créature ne choisisse un lieu. Et dans le cas où ils ont choisi un lieu sur lequel la créature n'est pas, ils vont pouvoir effectuer l'action du lieu. Chaque lieu, en fait, a un pouvoir, une action spécifique, qui va leur servir soit à acquérir de nouvelles cartes, pour avoir plus de choix dans le lieu, soit à se soigner en quelque sorte, puisque la créature va pouvoir leur retirer de la... Ça s'appelle de la motivation, je crois, ou de le... Je sais plus comment ils appellent ça dans le jeu, mais en gros, c'est la motivation, la résignation, ouais, en fait, des joueurs à résister à l'assimilation de la planète. Donc il y a des lieux qui vont soigner, qui vont permettre de récupérer, en fait, cette motivation. Et des lieux aussi qui vont permettre d'accélérer la venue des secours. Parce que le but du jeu pour les rescapés, ça va être de tenir jusqu'à l'arrivée des secours. Et le but du jeu pour la créature, ça va être justement d'annihiler toute motivation et d'assimiler les joueurs.
D'assimiler avant que les secours arrivent.
Donc voilà, les joueurs vont pouvoir effectuer des pouvoirs qui vont aller dans ce sens-là. Et la créature, elle, plus elle va capturer, enfin elle va avoir de joueurs, plus en fait leur assimilation va être accélérée. Donc la créature, elle pose pas juste un jeton, enfin sur le principe, elle pose juste un jeton sur un lieu, mais la créature, elle a aussi tout un deck de cartes qui s'appelle les cartes track et qui vont lui permettre à chaque tour de jeu de faire une action ou un pouvoir spécial. Donc notamment de placer des jetons supplémentaires. Des jetons qui peuvent être... en fait, il y a 3 jetons. Il y a le jeton créature de base. Donc ça, à chaque fois que la créature attrape quelqu'un avec le jeton créature, il perd... Ah, c'est de la volonté, voilà. C'est pas de la motivation, c'est de la volonté.
Ah, j'ai cherché, mais je suis désolé, j'ai pas trouvé.
Non, mais c'est pas grave. C'est la volonté.
C'est motivation, volonté, ça marche mieux. Ouais.
C'est presque... presque pareil. Donc la créature, si elle est sur le lieu d'un joueur, le joueur perd 1 volonté. Chaque joueur commence avec 3 volontés. Et à chaque fois que la créature capture un joueur, en fait, elle va avancer sur une piste qui va l'approcher, en fait, de l'assimilation des joueurs. Donc si elle attrape plusieurs joueurs dans un même tour, elle avance que d'un quand même sur la piste. D'accord ? Donc elle fait perdre 1 volonté à tous les joueurs qu'elle a attrapés, mais elle n'avance que d'un. Le pion assimilation sur la piste.
Ouais, mais ensuite, du coup, les autres font pas leur effet. Ils sont
alors,
pas, enfin,
voilà, c'est ça. C'est que si vous êtes attrapé sur une carte, vous ne faites pas votre effet. Donc ça peut être assez handicapant. Après, elle a 2 autres jetons qui sont utilisés soit par des pouvoirs des cartes. Donc c'est un jeton qui s'appelle, c'est un jeton cible. Donc ça, c'est sur certaines. Tu appliques l'effet des cartes track, donc c'est des effets qui sont spécifiques. Mais les joueurs peuvent quand même utiliser le pouvoir du lieu ou reprendre une de leurs cartes défaussées. Parce que ce qu'il faut savoir, ça va être aussi de la gestion de main. Quand un joueur va choisir un lieu, par exemple il va décider d'aller sur le lieu 5, qu'il se fasse attraper ou non, en fait le lieu va pas retourner immédiatement dans sa main. C'est-à-dire qu'au début, on a que 5 cartes. Donc, s'il réussit ou pas d'aller aller sur le lieu 5, le lieu 5 va rester défaussé, visible sur la table. Donc, la créature saura que tel joueur n'a plus son lieu 5 en main. Donc, elle aura, elle va réduire les champs des les possibilités et pouvoir essayer de deviner sur quelle carte le joueur va aller.
Jusqu'à ce que ce ne soit plus de la devinette, quoi.
Jusqu'à ce que ce ne soit plus de la devinette. C'est tout l'intérêt du jeu, c'est que les joueurs doivent gérer leur main pour éviter que ce genre de situation n'arrive. Parce que quand on n'a plus qu'une seule carte en main, bah forcément on va la poser, on va se faire avoir. Mmh. Et en plus, si jamais on n'a plus de cartes et qu'il nous reste des jetons volonté, bah la seule manière de récupérer des cartes, ça va être de perdre de la volonté. Donc pour parer à ça, effectivement, il y a des lieux qui vont permettre de récupérer des cartes. Ou alors sur n'importe quel lieu, plutôt que de faire l'action du lieu, on peut aussi reprendre une carte d'un lieu défaussé. Donc voilà, le jeton cible en fait va avoir un pouvoir pour la créature, mais les personnages pourront quand même utiliser le lieu ou récupérer une carte défaussée. Et après il y a le jeton qui s'appelle le jeton Artemia, qui est le nom de la planète en fait sur lesquelles se trouvent les survivants. Mmh. Et donc ce jeton là va pouvoir être utilisé aussi parfois par une carte track justement. Donc ce pion rend le lieu inutilisable. Il fait pas perdre de volonté, mais par contre, le joueur doit défausser une carte supplémentaire en plus de la carte qu'il vient de jouer. Donc ça peut très vite vider la main de carte. Mmh. Ce jeton est, comme je vous l'ai dit, utilisable sur certaines cartes track et aussi sur le plateau, sur la piste en fait des survivants. Il y a certains tours où la créature sera autorisée à jouer ce pion-là. Donc voilà, à chaque tour, la créature va jouer entre 1 et 3 pions, donc va pouvoir bloquer entre 1 et 3 lieux. Voir un petit peu plus parce qu'il y a certaines cartes pouvoir qui permettent de bloquer des lieux adjacents. En fait, les cartes sont en ligne de 1 à 5 et il y a une deuxième colonne avec les cartes de 6 à 10. Et en fait, les cartes qui sont côte à côte sont considérées comme des lieux adjacents. Et donc, il y a des pouvoirs qui permettent de bloquer ces lieux adjacents. Donc, comme je vous l'ai dit, quand la créature capture un survivant, elle avance de 1 sur la piste d'assimilation. Et si un joueur perd l'intégralité de ses 3 volontés, en fait, elle va avancer aussi d'1 sur la piste assimilation. Donc, par exemple, si elle attrape 2 joueurs, elle avance que d'1 pour avoir attrapé ces 2 joueurs. Mais si les 2, en même temps, en perdant leur dernière volonté, tombent à 0, elle va avancer de 2 de plus. Donc, ça peut aller très vite dans certains cas. À chaque fois que les joueurs perdent toute leur assimilation, le seul avantage c'est qu'ils récupèrent leur volonté, pardon. Le seul avantage c'est qu'ils récupèrent leurs 3 pions volonté et toutes leurs cartes dans leur main.
Et toutes les cartes, ouais.
Voilà.
Donc, heureusement quand même.
Ouais. Bah, le but c'est d'éviter d'arriver à cette situation et justement bien gérer sa main pour pas avoir à. Parce que quand on appuie à cette carte en main aussi, on peut volontairement perdre de la volonté pour récupérer des cartes. Par exemple, j'ai encore mes 3 volontés, j'ai plus qu'une seule carte en main. Au début du tour, je peux dire, bon, bah là, je perds une volonté pour récupérer 2 cartes, pour éviter d'être vraiment piégé par la créature.
Ouais, c'est ça.
Donc, en fait, ça se joue à chaque fois en 4 phases de jeu. La première phase, c'est l'exploration. Donc là, on joue une carte lieu, et on choisit ou pas de dépenser de la volonté pour récupérer des cartes. On joue une carte. Ensuite, il y a la phase track. Donc, la créature va poser ses jetons.
Pour essayer de choper les personnages quoi.
Ensuite on résout, donc tout le monde révèle ses cartes, on voit si la créature en a attrapé certains ou pas, et sinon on effectue les pouvoirs des lieux. Et ensuite il y a la maintenance, c'est-à-dire qu'on défausse les cartes lieux jouées, donc elles restent visibles sur la table, la créature reprend ses jetons, elle complète sa main à 3 cartes track, puisque la créature a toujours 3 cartes track en main, et donc elle peut choisir une carte par tour. Et on avance le pion secours. Donc en fait, la créature n'avance pas forcément à chaque tour, mais les survivants, à chaque fois qu'ils arrivent à passer un tour, le pion de secours va forcément avancer d'un.
Et il avance de 1, mais pour le faire avancer plus, il faut.
Oui, alors il y a
Faut aller 2-3 fois sur un lieu, je crois, c'est ça.
Alors il y a des lieux effectivement qui permettent d'accélérer l'avancée de cette carte. Donc il y a un lieu de base. En fait. Les 5 premiers lieux sont des lieux de base, et les 5 lieux suivants sont pour la plupart des lieux qui ont les mêmes capacités, mais de manière améliorée.
La plus forte.
Ouais. À 2-3 choses près, hein, parce que, effectivement, sur les premiers lieux, il y a la plage, donc le lieu de la plage. Donc la plage, faut que les survivants s'y rendent une première fois, ça va activer une balise. Et s'ils s'y rendent une deuxième fois, ça va envoyer le message de secours, en fait. Donc en s'y rendant 2 fois. Alors si 2 joueurs s'y rendent en même temps, ça marche pas, puisque ça fait que activer la balise. Donc c'est à 2 tours consécutifs, il faut que des gens se rendent dessus, et ça va faire avancer de 1 de plus le jeton sur la piste secours.
Ouais, je me rappelle que j'avais trouvé ça un peu laborieux, en fait.
Ouais, alors après, tu as donc un lieu upgradé qui s'appelle l'épave, qui permet, lui, à chaque fois que quelqu'un se rend dessus, d'avancer de un le jeton sur la piste de secours. Donc, en fait, il y a des cartes qui sont assez primordiales dans les 5 premières cartes, notamment la carte qui s'appelle le Rover, qui est le petit robot d'exploration, en fait, et qui est la carte
qui permet justement d'aller chercher les autres cartes.
Voilà, qui vous permet d'aller chercher les autres cartes et du coup de faire que vous ayez une main un peu plus garnie, que vous ayez des lieux un petit peu plus puissants et que vous ayez plus de choix dans ce que vous allez poser. Et puis, il y a l'antre aussi, l'antre de la créature, justement, qui est accessible. L'antre, l'avantage c'est qu'elle rentre un peu en résonance avec la créature. Donc si vous êtes sur l'antre et par exemple que la créature est allée sur le rover, vous allez pouvoir utiliser le pouvoir du lieu où se trouve la créature. Et donc souvent c'est ces deux lieux là qui sont un peu surveillés au départ par la créature, puisque le rover permet d'enrichir les mains, et elle a pas intérêt à ce que les joueurs enrichissent leurs mains parce que c'est plus compliqué pour elle après. Et du coup on se dit bon bah la créature va aller bloquer le rover, donc je vais aller sur l'antre pour copier le rover. Le danger c'est que sur l'antre, en fait, qui copie le pouvoir de la créature, si on se fait capturer par la créature sur l'antre, eh ben, au lieu de perdre une volonté on en perd deux, puisque on est vraiment dans son nid quoi.
C'est l'antre de la bête.
Donc c'est assez violent. Mais ça permet effectivement de parer au fait que la créature bloquerait tout le temps le rover et qu'on puisse jamais en fait récupérer d'autres cartes. Donc ça, en allant sur l'antre, on peut copier un peu les lieux que protégerait beaucoup la créature. Voilà pour l'explication des règles. Moi, c'est un jeu que j'ai beaucoup aimé parce que déjà c'est un jeu asymétrique et c'est pas si fréquent que ça. Ensuite c'est un jeu qui est finalement assez subtil quand même, parce que alors c'est pas vraiment un jeu de bluff, parce qu'on peut pas parler de bluff, si tu veux, y a pas vraiment d'annonce, on va pas annoncer qu'on va faire un truc pour essayer d'entourlouper l'autre. C'est vraiment un jeu plus d'intuition et de psychologie. Il faut essayer de prévoir à peu près par rapport à où on est dans le jeu ce que va penser faire l'autre et essayer justement de jouer à côté de ça.
Ouais, et donc, après, c'est quand même un jeu annoncé comme un jeu de bluff quand même. Après, on peut jouer sur les mots, mais là où c'est difficile de bluffer en fait dans le jeu, alors du coup, effectivement, je rebondis sur ce que j'avais dit après Essen. Moi, ce qui m'avait gêné, c'est un point que t'as pas cité, c'est que les joueurs en fait peuvent se concerter.
Oui.
Pour faire leurs actions, mais ils doivent se concerter à voix haute,
oui.
De façon à ce que la créature l'entende.
Je trouve que c'est l'intérêt du jeu, justement, c'est que tu ne peux rien faire de manière cachée, et donc tout doit se passer dans ta réflexion propre sur ce que les autres vont jouer, sur ce que la créature va faire. Et c'est ça que je trouve vachement subtil et intéressant. Ouais.
Mais du coup, tu quand tu joues, tu discutes toi avec les autres ou pas?
Tu
discutes avec les joueurs?
Ça peut m'arriver, ouais, de discuter avec les joueurs. Ouais. Parce que par exemple, tu vas dire à voix haute, bon, au prochain tour, vous n'allez surtout pas sur la plage, tu vois. Et donc là, tu sais pas comment les gens vont l'interpréter. Est-ce que la créature va se dire bon ben il me bluffe, donc je vais aller sur la plage, ou justement ben je vais pas aller sur la plage parce que la consigne a été de pas aller sur la plage. En fait, tu joues vachement sur la psychologie des gens et du coup pareil, les joueurs ils vont se dire bon ben est-ce qu'il m'a dit de pas aller sur la plage, ça veut dire que je vais pas y aller du tout. Ou alors ils vont se dire bon bah est-ce que ça voulait dire qu'il faut que j'y aille, enfin ça peut être n'importe quoi et tu peux ne rien dire,
ouais,
et ça a même effet,
ouais.
Mais
bah, moi c'est ce qui m'avait gêné dans le jeu en fait, c'est qu'en gros tu bluffes les deux parties en fait quand tu parles.
Bah oui, mais c'est ça qui est rigolo. c'est ça tout l'intérêt justement, c'est que c'est un
ouais,
jeu
enfin bon, pour moi c'était pas un jeu fun quoi, tu vois, enfin si tu veux le jeu pour moi il colle pas avec ce qui est entre guillemets la façon dont il est vendu en fait, si tu veux. Je sais pas comment dire ça, mais il colle pas avec le cahier des charges du jeu quoi. C'est-à-dire que pour moi c'est un jeu de bluff. Le jeu de bluff, tu es libre entre guillemets de bluffer comme tu veux. Enfin, moi j'ai besoin de ça.
Bah alors je sais pas s'il est vendu comme un jeu de bluff. Moi j'ai jamais vu vraiment ça comme un jeu de bluff. Alors pour le jeu en fait, moi j'ai eu l'occasion de l'essayer en version prototype il y a pratiquement 2 ans. Donc ça s'appelait pas Nautolone encore, ça s'appelait Zaroff. C'était le même principe, hein, mais c'était en fait sur une île déserte avec un conte un peu fou, un peu cannibale qui voulait, qui organisait une chasse à l'homme. Mais dans la mécanique c'était déjà pareil. Et donc, enfin, bah, j'ai pas trop vu moi comment a été vendu, on va dire, le jeu. Enfin, quel com a été fait sur le jeu, dire que c'est un jeu de bluff ou pas un jeu de bluff. Enfin, moi je le vois pas vraiment comme un pur jeu de bluff. Hein, c'est vraiment un jeu plutôt de c'est déjà un jeu asymétrique, avec une asymétrie qui est assez particulière, parce que effectivement c'est la créature contre les autres joueurs, mais les autres joueurs sont pas vraiment, enfin peuvent se parler, mais peuvent pas vraiment se concerter. Enfin, c'est pas un jeu d'équipe quelque part. C'est-à-dire que chacun va devoir essayer de deviner la psychologie de la créature. Et justement, s'il y en a un qui arrive pas à bien anticiper la créature qui se fait capturer, c'est pas grave parce que ça veut dire que potentiellement les autres vont faire des actions qui vont permettre déjà soit de soigner celui qui s'est fait avoir, soit d'accélérer la fin de jeu pour les autres. Et je trouve ça vachement intéressant. Surtout que c'est un parti pris et c'est volontaire. C'est plus dur de gagner quand tu es survivant que quand tu es la créature. Je sais plus quel est le ratio, hein, si c'est un truc genre 60-40, mais ou 55-45, je sais plus exactement. Mais il y a volontairement dans l'équilibrage du jeu un léger déséquilibre en faveur de la créature, ce qui rend la survie en fait vraiment compliquée. Mais en même temps, t'es sur une planète hostile, quoi. T'es pas à la plage au Club Med, donc il faut que ça soit vraiment dur de survivre sur ce milieu hostile, quoi. Et je trouve ça très bien.
Non mais enfin ouais ok c'est intéressant et la justification elle est correcte, oui c'est logique, mais c'est dit ça par exemple dans les règles
c'est
dit dans les règles que enfin le jeu il est volontairement déséquilibré à l'avantage de la créature
ça me paraît
important moi, je trouve que c'est important pour le ressenti dans le jeu.
Je pense pas que ce soit dit, je crois que c'est une discussion avec l'auteur que j'ai eue, et il m'a dit effectivement sur le... Alors je sais pas si c'est fait volontairement en tout cas, mais sur les statistiques des parties, la créature gagne un petit peu plus souvent que les survivants.
Bah alors, si c'est pas volontaire, comment dire.
Non mais je pense que c'est volontaire.
Non mais enfin, je pense que c'est volontaire parce que sinon, je veux dire, ils peuvent régler le jeu comme ils veulent avec les histoires de, avec les échelles. Donc, il suffit de rajouter une case d'un côté ou de l'autre, tu peux régler le jeu comme tu veux. Donc, en termes de ratio de gain-perte. Donc justement, enfin, je trouve que en avoir conscience et je pense qu'ils en ont conscience. Et ne pas le dire, c'est dommage. Enfin, tu vois, pour moi, ça serait intéressant. T'es sûr que c'est pas marqué dans les règles, quoi.
Je peux regarder, mais il me semble pas.
Enfin, moi, ça me paraît être un critère. Enfin, tu vois, parce que justement, moi, j'ai senti sur ma première partie que la créature, ça me paraissait avoir un net avantage. Si on te le dit pas du départ, bah tu vas sentir forcément une énorme frustration qui risque de dépasser le seuil de la frustration tolérable sur un jeu, tu vois. Bah, il faut qu'il y en ait, mais il faut qu'elle soit calibrée.
Oui et non. Enfin, je suis moyennement d'accord avec ce que tu dis. Sur un premier jeu, par exemple, tu joues la première fois. Je vois ça un peu comme un jeu quelque part. Un jeu coop où l'intelligence serait pas artificielle, ou ce serait
bien sûr,
voilà. Et du coup, quand tu joues la première fois à Pandémie, généralement tu te prends une grosse fessée et tu comprends pas ce qui s'est passé, quoi, tu vois. Enfin, tu te fais très vite avoir, et justement c'est cette partie qui te fait comprendre que ta main, enfin là dans Not Alone, qui te fait comprendre que ta gestion de main c'est très important. Faut toujours que t'aies des cartes en main, faut pas que t'ailles tout le temps sur les lieux qui paraissent les plus forts. Faut justement utiliser les lieux un peu annexes qui vont te permettre de récupérer des cartes, de poser deux cartes d'un coup et de pouvoir un peu jouer là-dessus. Et pour moi, ça fait tout à fait partie de la courbe de progression, c'est-à-dire que la première partie que tu vas jouer, effectivement la créature elle va te foutre une grosse claque parce qu'elle a un peu plus de facilité à prendre le truc en main, et la deuxième partie tu te fais pas avoir. Et moi, des joueurs avec qui j'ai joué plusieurs fois en tant que moi je joue souvent en tant que créature, mais la première fois je les ai effectivement assez mal menés, et la deuxième fois ils ont réussi à gagner parce qu'ils ont tout compris sur comment gérer leurs mains et puis comment m'embrouiller le cerveau en n'allant pas sur les lieux auxquels je pensais.
C'est ça. Et à ta psychologie, ils ont tout lu en toi. Ils ont lu en toi comme dans un livre ouvert.
C'est ça. C'est un jeu pour lequel il est très compliqué de faire un avis sur une seule partie parce que.
J'ai fait qu'une partie sur un salon, effectivement. Je prétends pas connaître le jeu. Après, ce que je dis, je pense que ça aurait été intéressant de mettre le ratio. Il est volontairement pas équilibré. Je pense que ça mange pas de pain. Dans un jeu coopératif, tu t'attends, enfin, quand t'as un minimum joueur, et encore, je pense que là aussi, d'après tout, dans un jeu coopératif, ça pourrait être intéressant de dire, vous risquez de perdre votre première partie, c'est normal, vous allez apprendre à jouer, blablabla. Ouais. Tu vois. Mais là, comme c'est pas un jeu coopératif, malgré effectivement que ce soit finalement comme un jeu coopératif, effectivement, t'as 6 joueurs potentiellement contre 1, le côté asymétrique joue là-dessus. Dans un jeu asymétrique, il y a aucun souci à ce que ce soit pas équilibré, tu vois. Mais je pense que c'est intéressant de le dire.
Ouais, ça, je suis d'accord. Ça aurait pu être dit. Mais en tout cas, faut vraiment pas. Effectivement, la sensation quand t'es survivant sur une première partie, elle peut être assez rude. D'autant plus que ça, c'est le seul petit reproche que je ferais. C'est un jeu que j'adore, hein, vous l'avez compris, mais effectivement, sur les cartes track que va avoir la créature, il y en a forcément des plus fortes que d'autres.
Ouais, j'imagine. Hein.
Et effectivement, quand t'as des tirages, des fois en début de partie, avec des cartes track très puissantes dès le début de partie, tu peux un peu étouffer les joueurs. Par exemple, si vraiment ouais, sur tes premières cartes, tu peux à chaque fois jouer deux, voire trois pions, enfin surtout deux pions en fait, mais avec des pouvoirs qui peuvent être sur des lieux à cheval et vraiment empêcher les joueurs d'utiliser des lieux intéressants, ça peut être très très dur de rattraper le retard après. Par contre, bon, ça c'est des cas qui arrivent mais qui sont assez minoritaires finalement. Sur toutes les parties que j'ai faites, ça m'est arrivé une fois de vraiment avoir des cartes en main qui faisaient que derrière ils avaient beaucoup de mal. Enfin, en plus. C'est un jeu aussi où quand tu joues avec des gens que tu connais très bien, ça peut être très frustrant parce qu'en tant que créature, t'arrives vraiment à savoir à peu près ce qu'ils vont faire. Moi, j'ai une partie où j'ai joué avec des amis et ma copine, avec des cartes track très fort dès le début, et du coup, j'ai réussi à les attraper à pratiquement à tous les coups, plus les cartes track. Donc en fait, on a fait. Enfin, oui, ils sont pas arrivés à la moitié de leur piste, quoi. Tu vois.
Mais ils voient pas le jour, quoi.
C'est ça. Donc effectivement, ouais, là, ça peut être très frustrant pour les traquer. Mais j'ai dû faire une dizaine de parties. C'est arrivé une fois sur 10 parties, quoi. Les autres parties, à chaque fois, c'est assez serré. Ça joue sur l'échelle. Ça joue à une ou deux cases près. Enfin, c'est vraiment. Ça peut basculer d'un moment ou à un moment ou un autre. S'ils arrivent à jouer l'épave et qu'ils accélèrent d'un alors que moi j'arrive pas à les attraper, enfin ça peut jouer vraiment sur les derniers tours, hein. Ça peut la plupart des parties, une fois que les joueurs ont au moins fait une partie on va dire d'initiation pour savoir un peu comment ça joue et surtout cette notion de gestion de la main qui est très très importante, c'est écrit dans la règle d'ailleurs, hein. Donc ça c'est écrit, il y a écrit quoi dans la règle, il y a écrit un truc là-dessus. Conseil en tant que traqué, gérez au mieux vos cartes lieux et assurez-vous d'en avoir toujours suffisamment en main afin d'éviter que la créature ne puisse déduire votre prochain lieu d'exploration.
Donc
ça c'est vraiment la chose primordiale, savoir que des fois quand on arrive à aller sur un lieu parce qu'on s'est pas fait attraper, vaut mieux des fois récupérer des cartes plutôt que faire le pouvoir en fonction du pouvoir que c'est, hein, bien sûr.
Mais
voilà. Et en fait, je dis que c'est déséquilibré du côté de la créature, mais finalement, quand les joueurs ont réussi à récupérer plusieurs cartes du niveau 2, donc des cartes de 6 à 10, et que là, en fait, plusieurs joueurs ont 6, 7, 8 cartes en main, eh ben, ça s'inverse un peu, en fait.
Ouais, mais ça doit pas arriver. Puisque tu vas sur le rover.
Oui, mais si tu vas sur le rover et que quelqu'un va sur l'antre, ça peut arriver.
C'était dit exprès pour le bluff contre bluff.
Bref, ouais, tout à fait. Mais voilà, quand ça arrive, en fait, ça devient très très dur pour la créature d'attraper les traqués. Enfin, ça devient beaucoup plus dur. Mmh. Et là, justement, le rapport de force s'inverse complètement. C'est-à-dire que, que là les traqués ils vont aller beaucoup plus vite que la créature. Donc c'est moi ce que j'adore, c'est tout ce moment où ça va basculer, quoi. Effectivement la créature a de l'avantage au départ et si elle arrive pas à contenir correctement les traqués au départ, bah t'as ce point de bascule en fait où bah c'est pour elle que ça va devenir très très compliqué.
Ah, je comprends. OK.
Voilà. Donc ça c'est pour le jeu, alors anecdote rigolote. Ce jeu a été proposé au concours de création Ludinor de l'année dernière, donc juste avant qu'il soit signé chez GAG, où il venait d'être signé, mais en gros la proposition au concours c'était avant qu'il soit signé, et donc il a pas été sélectionné, mais même pas sélectionné, quoi. C'est-à-dire c'est pas qu'il a pas eu le prix, c'est qu'il a pas été sélectionné à Ludinor.
C'est une sélection sur les règles.
Sur les règles, ouais.
Ça peut aussi.
Et six mois plus tard, enfin un peu plus, un an plus tard, il gagnait donc au CNJ. Il a été primé au CNJ, qui est quand même un prix quand même reconnu et assez prestigieux, hein, finalement. Voilà. Donc bon, moi la boîte de retirage du coup, parce qu'il a été primé entre la première et le deuxième tirage, donc sur ma boîte il y a un petit macaron primé CNJ en plus.
Ah d'accord, ok. Ah mais il suffit de tomber sur une ou deux personnes effectivement qui apprécie pas le principe ou voilà,
oui.
ça joue à pas grand chose des fois. Hein.
Mais pareil, alors je trouve le principe moi assez original pour le coup. J'ai pas souvenir d'un jeu qui se joue de cette manière-là. sur tout un jeu asymétrique qui joue de cette manière-là.
Du bluff asymétrique, non, effectivement, c'est pas courant quoi.
Alors encore une fois, je sais pas s'ils le vendent comme jeu de bluff, mais moi je le qualifierais pas spécialement comme jeu de bluff. Quoi.
Sur BGG, il est dans la catégorie bluff, jeu de cartes et science-fiction.
Ouais.
Donc tu vois, c'est les trois catégories. Les deux autres, on peut les oublier quoi. Ouais. Jeu de cartes et science-fiction.
Bon, bluff, c'est peut-être qu'il s'en rapproche le plus, mais. Mais c'est pas comparable à un Skull ou un Perudo ou ce genre de jeu de bluff quoi.
Voilà, c'est ça. Je pense que c'est ce qui m'a embêté dans le jeu quoi. Je suis très attaché à la promesse à la promesse et au rendu de la promesse.
Au niveau de jeu de bluff, c'est peut-être plus comparable, alors ça a rien à voir hein, mais c'est peut-être plus comparable à un Love Letter ou un coup que à un jeu de bluff type Skull ou Perudo poker.
Effectivement, genre plus de love letter, tu vois, pour le coup, que de coups. Ouais. Clairement.
En gros, c'est pas un jeu où tu vas annoncer un truc et puis après ça va être de la vérité ou pas quoi. C'est vraiment un jeu où tu vas réfléchir à comment va jouer l'autre et essayer de contrecarrer ce qu'il va faire, mais lui va peut-être aussi réfléchir à ce que tu vas faire, donc il avait prévu que tu penses ça, mais tu peux faire des chaînes de pensée contre pensée.
C'est plus un jeu de guessing qu'un jeu de bluff en fait.
C'est ça, oui, c'est ça. Guessing, c'est peut-être plus juste que bluff. En tout cas, ça marche très bien. Moi, à chaque fois, je passe un bon moment quand je joue à ce jeu-là. Ça va assez vite, hein. Puis le matos, c'est du beau matos. Les illustrations sont vraiment jolies. Les cartes sont de très bonne qualité. C'est des cartes toilées de très bonne qualité. Les jetons créatures, c'est des jetons de poker, type poker, hein, un peu comme dans Splendor. Donc c'est du beau matériel. Après, les jetons volonté, c'est des petits cubes en bois rouge qui marchent très bien. Il y a deux espèces de cylindres pour mettre sur la piste qui permet d'avancer. La piste est à recto verso en fait, il y a deux côtés. Donc la créature peut choisir en fait à quel moment vont arriver ses bonus avec le jeton Artemia. Donc en fait, soit elles sont réparties à partir déjà vers le début, enfin il y a quelques tours à vide et après ça va être un jeton Artemia un tour sur deux, ou alors il peut choisir de concentrer tous ses jetons Artemia sur les six derniers tours. C'est-à-dire que pendant tout le début, il n'en aura pas, mais pendant les six derniers tours, il va pouvoir les jouer à chaque tour, pratiquement. Mm-hmm. Donc voilà, t'as un petit choix de la créature au départ aussi sur le type de plateau qu'elle veut.
Ouais. Ça donne des parties un peu différentes
Ouais, ça donne des parties un peu différentes. Justement, comme je te disais, si les joueurs arrivent à renverser un peu la vapeur et ils sont plus forts que la créature à la fin, le fait de mettre tous les jetons Artemia à la fin, ça va peut-être équilibrer un peu ça va te rattraper un peu sur ce coup-là.
Ça va permettre à la créature de revenir un peu.
Ouais, alors que si tu les répartis, justement, ça va permettre de justement moins laisser les joueurs se développer et donc être un peu plus lisse sur la partie. Voilà, c'est soit jouer le tout pour le tout, soit contrôler un petit peu sur le long de la partie, quoi.
Ah, okay.
Ça change un petit peu. Donc ça, c'est pour le jeu de base. Comme je vous ai dit, j'ai pu essayer une des extensions. Alors il faut savoir qu'il y a donc l'auteur Guilin aimerait faire trois extensions en tout.
Ah oui.
Et il y en a deux qui sont d'ores et déjà prévues. Donc il y en a une première qui va sortir entre Paris Ludique et Essen à peu près. Donc l'objectif, c'était Paris Ludique, mais ça risque d'être un peu short, donc ça va être entre PEL et Essen.
On va dire que ce sera pour la Gen Con, quoi.
Ouais, ou pour le Bruxelles Game Festival, enfin par là, quoi. Courant de l'été. Et la deuxième sera prévue Essen, ou alors entre Essen et Cannes, si ça prend un peu de retard, quoi.
D'accord.
Donc la première s'appelle... C'est pas vraiment une extension, ça s'appelle Exploration Pack. Donc en fait, c'est plus un pack qui va rajouter des lieux, des cartes track et des cartes survie. J'ai oublié de dire que, oui, c'est un élément que j'ai pas dit, mais les survivants commencent tous avec une carte survie et peuvent en acquérir durant le jeu. Et les cartes survie pour les survivants, donc c'est pas systématique qu'on en ait, on commence avec une et pour les récupérer, c'est un lieu, c'est pas forcément facile d'en avoir, contrairement aux cartes track que la créature va avoir à tous les tours. Et la carte survie, c'est un peu le penchant traqué de la carte track. Ça va être des bonus à certaines phases de jeu que les joueurs vont pouvoir jouer une fois par tour et par joueur.
Ça c'est dans l'extension ?
Non non, ça c'est dans le jeu de base. C'est dans le jeu de base.
Je me rappelle pas de ça.
Okay. Ça c'est assez important parce que effectivement t'as des cartes que tu vas pouvoir jouer one shot qui vont te dire bon ben ce tour-ci la créature elle fait perdre la volonté à personne. Ou ce tour-ci voilà je choisis ma carte après que la créature ait posé le jeton. Enfin il y a tout un tas de bonus. Donc tout le monde commence avec au moins une de ces cartes et après faudra aller sur un lieu particulier pour en récupérer sur un lieu qui est du niveau 2. Donc c'est assez difficile à avoir. Et donc cette première extension qui est l'exploration pack, ça va te rajouter des nouvelles cartes track pour la créature, des nouvelles cartes survie pour les survivants et surtout 10 nouveaux lieux qui vont changer un peu la physionomie du jeu parce que ça va pas être les mêmes pouvoirs de lieu. Donc c'est 10 nouveaux lieux, tu peux jouer complètement avec ces 10 nouveaux lieux ou tu peux bien sûr mélanger ces lieux avec D'accord. les lieux de base. Mmh. Tu peux faire un mix comme tu veux.
Du coup tu remplaces enfin c'est les mêmes numéros ça ouais. Tu remplaces le 1 par le 1
c'est ça tu remplaces le numéro par un autre numéro et donc y a pas de nouvelles règles dans cette extension, c'est-à-dire qu'il y a pas de règles additionnelles, c'est vraiment juste
des effets différents
et puis des cartes un peu pour varier un peu les cartes. L'objectif aussi c'était un peu justement de parce que la critique du fait qu'il n'y ait pas assez de coopération, que ce soit parfois un peu hasardeux, t'es pas la seule à la faire. C'est quelque chose qu'ils ont aussi, c'est des retours qu'ils ont eu de certains joueurs.
D'accord.
Et donc les objectifs de ces extensions, c'était aussi d'amener un peu plus de variété déjà dans les cartes, d'amener un peu plus de tactique et un peu plus de coopération en fait entre les survivants aussi. Il y a certains effets qui vont pouvoir permettre aux joueurs notamment de discuter ou de se montrer des choses et puis aussi d'accentuer des effets quand on ira à plusieurs sur un lieu ou ce genre de choses.
Ouais, d'accord, ok, je comprends.
Voilà.
Ouais, effectivement, ça peut être intéressant, effectivement.
Donc ça répond un peu. Donc ça, c'est l'extension que je n'ai pas testée. C'est la première qui va sortir.
D'accord.
La deuxième qui va sortir, ça s'appelle Sanctuary. Donc ça, c'est une plus grosse extension qui va rajouter un peu des nouvelles mécaniques et des nouvelles règles. Donc ça introduit deux changements majeurs. Déjà du côté de la créature, elle va pouvoir évoluer. En fait, elle va muter en fait. Elle va avoir des évolutions, c'est des cartes évolution, des sortes de gènes que la créature va pouvoir acheter en dépensant, par exemple, en dépensant des tours sur sa piste d'assimilation. Elle va pouvoir volontairement reculer sur sa piste d'assimilation. Elle va pouvoir aussi sacrifier des cartes survivants. Alors, je vais vous expliquer les cartes survivants après, mais il y a une nouvelle carte qui s'appelle les cartes survivants. Voilà, elle va pouvoir défausser ce genre de carte ou reculer sur sa piste pour une fois par tour rajouter une évolution, une amélioration, une mutation de la créature. Donc il va lui donner des nouveaux pouvoirs, des nouvelles capacités, tous plus puissantes ou pas les unes que les autres. Enfin, plus elle est puissante, plus elle va être chère à payer. Mais voilà, il y a certains trucs qui sont assez intéressants. Et les cartes survivants. Vous allez vous rendre compte que vous n'étiez pas les premiers à vous cracher sur cette planète.
Ah.
Et en fait, sur la planète, il y a tout un tas d'autres survivants qui errent un petit peu et qui ont été.
Ils n'ont pas encore été assimilés, en fait.
Alors, certains d'entre eux, si. En fait, les cartes survivants, tu vas commencer avec un survivant au début de partie, déjà. Et ensuite, il y a des nouveaux lieux aussi, quand même. Il y a 5 nouveaux lieux, en fait, avec cette extension. Et dont des lieux qui vont te permettre de récupérer des cartes survivants. Alors la carte survivant, c'est le même principe un peu que les cartes survie, c'est des bonus, ou le même principe que les évolutions de la créature, sauf qu'en fait c'est des pouvoirs permanents. Donc les cartes track de la créature et les cartes survie des survivants, c'était des traqués, c'était des one shot quelque part. Et donc là les survivants et les évolutions, c'est des choses qui vont être permanentes. Donc quand tu vas récupérer un survivant avec toi, il va t'apporter un bonus permanent, plus ou moins fort en fonction du survivant.
D'accord.
Voilà. Et sauf que il y a une petite notion de prise de risque puisque tu as un deck avec des cartes survivants et je sais plus exactement la répartition mais peut-être un survivant sur 5 ou un survivant sur 6 est déjà assimilé par la créature.
Et donc du coup là c'est pas un bonus quoi.
Eh ben non, quand tu vas le piocher en fait je sais plus, je crois que je sais plus si tu perds une volonté ou pas ou une carte peut-être de ta main. Enfin
ouais.
T'as un petit malus et en plus ce survivant assimilé, il va directement aller à la créature. Et ça va lui servir en fait de monnaie pour acheter, entre autres, ça va lui servir de monnaie pour acheter ses évolutions.
Ses évolutions.
C'est ça.
Ok.
Voilà pour cette nouvelle extension qui s'appelle du coup Sanctuary, avec des nouvelles cartes lieux, notamment pour les 5 cartes les plus puissantes, hein, les cartes 6 à 10, avec notamment une carte qui est assez intéressante, qui est une sorte de communauté de survivants qui se déplace un peu partout sur la planète. Et qu'en fait, à chaque fois qu'on... Enfin, si je récupère la carte, grâce au rover, je vais récupérer la carte. Je sais plus si c'est la 7 ou la 8, ou la 9. Enfin, je sais pas. Je récupère la carte 8, qui est cette carte particulière. Je vais pouvoir la jouer, elle va avoir un effet. Mais je vais la défausser, je pourrai plus la récupérer. Et donc, la fois d'après, il va falloir que je retourne au rover pour récupérer la carte de ce numéro-là. Par contre, elle aura un effet amplifié à chaque fois. C'est-à-dire que si t'arrives à le faire 3 fois de suite, en fait, t'as un effet très très fort après sur la créature qui est vraiment bourrin, quoi, tu vois. Donc c'est très dur à aller chercher, mais si t'arrives à jouer cette carte jusqu'au bout, à aller la rechercher à chaque fois, en te reliant avec les autres joueurs par exemple, t'auras un effet très bourrin contre la créature.
D'accord, ok.
Voilà. Donc voilà pour ces deux extensions, et je crois à ce que l'auteur m'a dit, que dans sa tête il avait une troisième extension, bon, qui est pas encore prévue pour le moment, mais qui ajouterait en fait des scénarios spécifiques. Donc vraiment avec des conditions de départ particulières, des choses qui arrivent en jeu, enfin vraiment des scénarios un peu plus, on va dire un peu plus présents dans le jeu, des trucs vraiment.
Ah, c'est bien, c'est un jeu qui lui aussi a une vie après son premier tirage, c'est intéressant à voir.
C'est ça, c'est un jeu.
Tu vois, je serais curieux de rejouer avec l'extension plus coopérative là, tu vois.
Ouais. Enfin, qui rapporte quelques lieux un peu plus.
La première là que.
Un peu plus tactique.
C'était quoi le nom, t'as dit ?
Donc c'est alors attends, je retrouve mes notes. C'est Exploration Pack. Ce sera l'Exploration Pack.
Ok.
Voilà, qui devrait sortir entre PEL et SN. Mm. Voilà, donc Not Alone. Alors c'est un jeu qu'il faut essayer, hein, je pense. C'est un jeu qui vaut le coup d'être essayé, et c'est un jeu où il faut au moins faire 2 voire 3 parties. Hein. Surtout quand on joue du côté des survivants, c'est un peu comme un co-op. Faut pas s'arrêter à une première défaite qui peut être assez violente, parce que justement il y a cette courbe de progression et cet apprentissage de la gestion de la main quand on est survivant qui est assez importante. Et après ça, les survivants peuvent tout à fait gagner. Hein. En tant que créature, je me suis déjà fait avoir par les survivants. J'ai pas été bon. Et en tant que survivant, j'ai déjà gagné contre une créature aussi, en essayant d'être le plus discret possible. En fait, faut pas trop flamber sur les cartes importantes. Des fois, faut attendre un petit peu. Le bon moment pour aller sur des cartes.
Ah ouais, mais c'est ce que je voulais dire à un moment, en fait. C'est pas forcément un jeu pour les optimisateurs. Enfin, moi je sais que, enfin, c'est pas la défaite, hein, qui m'a refroidi sur le jeu, parce qu'en fait, dès qu'on a démarré et qu'il a expliqué, en fait, qu'on pouvait pas parler, déjà, ça m'a...
Ah, tu peux parler. T'as le droit de parler. Enfin,
oui, pardon, oui. Que grosso modo, qu'on pouvait pas parler à voix basse. Du coup, ça m'a tout de suite scié, en fait, sur le jeu. Et oui, et puis moi, je suis plutôt du genre optimisateur. Alors bon, forcément, sur un jeu comme ça, il est évident qu'il faut pas nécessairement optimiser, parce que, si t'optimises trop, le chemin, en fait, que tu vas prendre est très visible par la créature.
Ah oui.
Du coup,
si tu veux faire
te faire choper souvent.
Si
quoi.
Tu veux faire les coups les plus puissants à chaque fois, t'as de fortes chances de te faire attraper par la créature, effectivement.
C'est ça. Et il y a quand même pas mal de trucs qui sont, la plupart du temps, en tout cas à un moment donné, ils sont vraiment pas intéressants pour toi, en fait. Donc du coup, t'es un peu guidé, en fait. Si tu veux faire quelque chose de pertinent, t'es un peu guidé, en fait, par le jeu, sauf qu'il faut réussir à sortir de ça.
Les lieux pas intéressants pour toi, c'est les lieux les plus intéressants pour toi, parce que c'est les lieux où tu vas le moins être chopé par la créature. Et faut pas oublier que le but du jeu, ça va être d'attendre les secours. Alors effectivement, tu peux les accélérer, mais le but, c'est, en fait, même si tu fais rien, tant que tu te fais pas choper par la créature et que tu récupères ta main de carte, tu vas pouvoir gagner. Et donc c'est tout ce côté-là qui est intéressant aussi, c'est de se dire là c'est pas très intéressant, et justement c'est peut-être le lieu le moins intéressant où je vais aller, parce que quoi qu'il arrive, peut-être que l'action est pas intéressante, mais à la place je vais peut-être pouvoir récupérer la carte que je viens de jouer, et donc avoir une grande variété de possibilités pour le tour d'après en fonction de ce que la créature a fait. Parce que la créature, elle, psychologiquement aussi, elle va rarement 3 ou 4 fois de suite sur le même lieu, tu vois. Donc tu peux te dire j'attends un peu, pour l'instant je fais des trucs un peu pourris. Et généralement, dès que quelqu'un récupère une carte du niveau inférieur aussi, dès qu'il a la carte en main, la créature, c'est très dur du côté de la créature, parce qu'elle va se dire est-ce que je vais tout de suite là-dessus, parce qu'il risque de la jouer tout de suite, et généralement c'est des effets plus puissants. Mais dans ce cas, ça va libérer le champ aux autres pour l'antre et le rover, par exemple.
Et bien sûr.
Ou alors, est-ce que justement j'assure, je vais sur le rover, et moi c'est c'est vraiment des sensations qui sont, alors des fois c'est des prises de tête hein, pour savoir le lieu que tu vas choisir, c'est pas toujours simple hein. Et que ce soit pour la créature ou pour les joueurs, mais c'est vraiment ouais. ce côté prise de tête aussi sur qu'est-ce que va penser l'autre, qu'est-ce qu'il va penser que je vais penser, enfin tu vois toute cette double, triple, quadruple interprétation ouais. qui est pour ma part très intéressante.
Alors on aura l'occasion de refaire une partie peut-être.
Bah ouais avec plaisir. Ouais. Avec plaisir. Alors j'ai pas testé dans les configurations ouais. à deux joueurs en fait, c'est-à-dire
c'est ce que j'allais te demander créature dans mon esprit.
Créature contre un seul joueur, j'ai pas testé. Les plus petites parties que j'ai fait, c'était à 4 je crois. J'ai fait du 4 et jusqu'à 7 joueurs. Donc de 4 à 7, ça marche très bien dans toutes les configurations. Les configurations à moins, je n'ai pas testé, donc c'est difficile de pour ma part de vous en parler.
Très sincèrement, je pense pas que ce soit le meilleur config à 2. Hein. Bah je veux dire l'essence du jeu, elle est pas simplement de dire j'évite la créature.
Ouais.
Seul, tu vois, enfin, j'imagine qu'il est censé y avoir des effets un peu de diversion, de, tu vois, il faut être plus que tout seul contre la créature.
Ouais, quoi. après à deux, j'imagine que tu peux retrouver un côté un peu plus bluff que, comme tu l'aimes peut-être, mais un peu plus jeu de poker, quoi, parce que t'es vraiment face à face, et t'es vraiment à savoir, qu'est-ce que l'autre a dans sa main, quoi, tu vois, c'est un peu,
peut-être, mais j'ai peur que du coup ça fasse un peu longuer, en fait, tu vois, le côté justement, parce que c'est une sorte de jeu d'attente, en fait, pour le traquer, donc, je sais pas.
Oui, t'as peut-être moins d'accélération, mais bon, ça dépend un peu, ouais. Bon, bah, j'essaierai un de ces quatre à deux, trois, ouais. À deux ou trois, et puis on fera un petit retour dessus. Mais voilà, donc Not Alone, c'est un jeu de Guylain Masson, illustré par Sébastien Quévaux, et les illustrations, je le redis, mais les illustrations sont plutôt très réussies. Édité par Geek Attitude Games, GAG pour les intimes, un éditeur belge. On n'a pas fait exprès, mais on a pris deux jeux belges.
Oui, c'est vrai,
aujourd'hui.
C'est vrai. On a une thématique belge, écoute.
Et donc c'est pour 2 à 7 joueurs, à partir de 10 ans, pour des durées de 30 à 45 minutes, et c'est au prix, au assez petit prix, hein, pour le matos, de 17,90 chez notre partenaire Philibert.
Et ben voilà, ben c'est parfait.
Bah ouais.
Cool. Et en plus, on n'a écorché aucun nom d'illustrateur ce coup-ci, parce que vous n'avez pas de nom d'illustrateur.
Ils étaient
trop compliqués
beaucoup
à prononcer.
Plus facile à prononcer que parfois.
C'est ça.
C'est sûr.
Enfin, remarque, je dis ça, mais moi, je sais pas si se prononce Guillaume ou Guillaume, mais bon.
Ah.
Et je crois que j'ai dit que je crois que je l'avais jamais croisé, mais il a fait God Save the Queen aussi.
Ah d'accord, c'est lui aussi.
Le précédent
de voilà. Sit Down, ouais. Ouais, c'est vrai que c'est dans le même esprit mmh. au niveau
c'est
des
ça.
Personnages. Mmh. Ouais, j'avais pas fait gaffe au nom du coup sur la boîte de God Save the Queen. Mmh. Honte à nous.
Voilà, bien je crois que ça conclut notre émission.
Ouais.
Et il nous reste à vous dire au revoir au mois prochain, et puis d'ici là,
jouez bien.